RFI, 7h à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Martin Guèze.
Bonjour Julien Coquelroem, bonjour à toutes et
tous. On débutera à deux pas des locaux de RFI au Salon de l'Agriculture, coup d'envoi ce matin de la 61e édition.
Et ça se passe à la porte de Versailles, qu'on aperçoit presque depuis les vitres de notre studio. Si vous avez bonne vue, Julien, vous pourrez peut-être tout à l'heure. Emmanuel Macron, arrivé, chahuté l'an passé, le président français devrait passer une journée plus calme cette année au Salon. Quelques jours après l'adoption de la loi d'orientation agricole au Sénat.
Nous serons aussi en Allemagne, plus que quelques heures avant les législatives anticipées.
60 millions d'électeurs sont appelés demain aux urnes. La CDU de Friedrich Merz fait la course en tête. L'AFD haut placé, le SPD est à la traîne. En Ukraine, reportage rare à suivre dans les sous-sols de l'opéra de Kharkiv qui continue à se produire malgré la guerre. Et puis en RDC, afflux de réfugiés congolais vers le Burundi. Plus de 40 000 personnes ont fui les combats vers le petit pays voisin, alors que le M23 poursuit son avancée dans le sud Kivu.
Bonjour, veaux, vaches, cochons, couvées, ouverture du salon de l'agriculture ce samedi à Paris.
61e du nom, l'occasion pour les enfants parisiens de voir les animaux de la ferme de leurs propres yeux, l'occasion pour le président Emmanuel Macron de se faire un petit bain de foule et un marathon. Les journées au salon sont souvent très très longues pour les chefs d'État et parfois éprouvantes. Souvenez-vous, l'an dernier, il avait été chahuté, il devrait être un peu moins tensé cette année. Pas d'appel au chahut des principaux syndicats agricoles, quelques jours après la loi d'orientation adoptée au Sénat, qui a fait une croix sur de nombreux points clés de la protection de l'environnement pour faire la part belle à la simplification et à l'industrie, Igor Strauss.
Aujourd'hui, l'agriculture, elle est à la croisée des chemins.
Pour Olivier Ranque, agriculteur bio en région parisienne, le dilemme est simple. Soit l'agriculture continue son industrialisation au détriment de la biodiversité, soit elle se tourne vers l'agroécologie, un postulat validé par la science. Christian Huyg, ancien directeur scientifique à l'INRAE, l'Institut de Recherche Agronomique.
Si vous ne faites strictement rien, dans 10 ans, vous avez un effondrement de la qualité de l'eau, vous n'avez plus de biodiversité, donc vous n'avez plus de services à porter, et donc vous avez des choses que vous ne pouvez plus faire. Et on a un changement climatique qui est galopant, auquel les systèmes actuels sont très peu adaptés. Donc, vous ne faites rien. Dans 2040-2050, vous avez un effondrement de la capacité productive.
Malgré cette mise en garde scientifique, la loi d'orientation agricole, définitivement adoptée par le Sénat le 20 février dernier, marque un coup d'arrêt, voire un recul de la protection de l'environnement. Incompréhensible pour Olivier Rang, pour qui l'agroécologie est la solution contre la pollution agricole et le réchauffement climatique.
Il n'y aura pas le choix. Au bout d'un moment, on va se prendre le mur. Moi, je veux bien qu'on retarde. Mais l'échéance, plus on la retarde, moins on sera préparé et plus elle sera dure.
Igor Strauss, du service environnement de RFI, le salon de l'agriculture qui se prolonge jusqu'au 2 mars prochain. On y revient avec votre invité, Thierry Pouche, Julien, dans une dizaine de minutes.
La campagne à la ville à Paris, la campagne tout court en Allemagne, électorale cette fois-ci.
Dernière ligne droite, dernier meeting, 60 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour renouveler les 630 sièges du Bundestag. Et les différents candidats à la chancellerie battaient encore campagne ce vendredi. Qui, pour succéder au social-démocrate Olaf Scholz, le sortant paraît mal embarqué et largué dans les sondages. C'est la CDU de Friedrich Merz qui fait la course en tête. Le leader des conservateurs était hier soir dans la Ruhr. Ambiance bon enfant, même si l'ombre de l'AFD, le parti d'extrême droite, gâche un peu la fête. Reportage Pascal Thibault.
Kanzler, Kanzler, chancelier, panneau à la main, les jeunesses chrétiennes démocrates s'époumonnent et saluent déjà le successeur d'Olaf Scholz. Avec des intentions de vote deux fois plus importantes que celles des sociodémocrates, Friedrich Merz, président de la CDU, est assuré de sa victoire demain soir. Les troupes sont donc enthousiastes ce soir à Oberhausen, mais beaucoup savent aussi que la victoire attendue n'est qu'une première mi-temps. Les chrétiens démocrates veulent obtenir une avance la plus large possible pour s'imposer ensuite face aux partenaires de coalition qui leur sera nécessaire. Rainer Burst, un militant de CDU.
À la fin de l'ère Merkel, avec plusieurs gouvernements avec le SPD, on voulait tourner la page. Il faut que cette fois, nous ayons un rôle de leader et imposions mieux nos thèmes que sous l'ancienne chancelière.
Friedrich Merz est accueilli avec ferveur par ses troupes, mais il sait aussi qu'il s'apprête à prendre les rênes du pouvoir dans une situation très difficile pour son pays.
Ce sera peut-être la législature la plus décisive depuis des décennies. Nous sommes face à des questions qui ne nous seraient jamais dans le passé venues à l'esprit.
Avec une extrême droite à 20%, Friedrich Merz est réaliste. Sans succès dans les 4 ans qui viennent, son futur gouvernement pourrait être balayé par une vague populiste en 2029. Pascal Thibault, Oberhausen, RFI.
RFI qui se mobilise pour ces élections avec nos correspondants et envoyés spéciaux. Article également sur le duel à distance entre Friedrich Merz et Olaf Scholz à retrouver en une de notre site internet www.rfi.fr.
Au Proche-Orient, confirmation de la mort de l'otage Shiri Bibas.
Cette mère de famille de 33 ans, enlevée le 7 octobre 2023 par le Hamas. La confusion régnait depuis hier car la dépouille n'a pas été rendue comme prévu par le mouvement islamiste palestinien. Le Hamas qui reconnaît une possible erreur et ce matin, le kibbutz où Shiri Bibas avait été enlevé, a confirmé sa mort. La famille a aussi identifié le nouveau corps rendu par le Hamas comme celui de Shiri Bibas. À quelques minutes du 7e et dernier échange entre otages et détenus prévu lors de la première phase du cessez-le-feu, 6 otages encore vivants doivent être libérés ce matin dans la bande de Gaza en échange de 602 détenus palestiniens. Nous serons en direct de Jérusalem dans une heure.
Direction l'Ukraine à présent et la ville de Kharkiv, petite parenthèse pendant la guerre.
Une parenthèse musicale pour oublier les horreurs du front et des bombardements. Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine à 30 km de la frontière russe. Mais la vie culturelle n'a pas disparu. Après plus de 2 ans d'interruption, l'opéra de la ville a décidé de reprendre ses représentations en sous-sol, à l'abri des tirs de missiles et des alertes antiaériennes. Un moment unique, mélodie en sous-sol, reportage de nos envoyés spéciaux Anastasia Bicchio et Boris Vichit.
C'est l'heure du cours de danse pour la troupe de ballet. L'immense scène de 750 mètres carrés sert de salle de répétition. De l'autre côté du lourd rideau, la salle aux 1600 fauteuils en velours beige n'accueille plus le public.
Dès le lendemain de la victoire, on remontera sur cette scène.
En attendant que le vœu d'Igor Toulousov, le directeur général et artistique de l'opéra, se réalise, les représentations sont données plusieurs dizaines de mètres en dessous, dans un vaste bunker de l'époque soviétique, utilisé pour acheminer les décors. Les 3 représentations hebdomadaires font salle comble, comme le souligne le régisseur général Armen Kaloyan.
Le théâtre, c'est une thérapie, aussi bien pour les spectateurs que pour nous. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand on a présenté le budget à Churchill, il s'est étonné de ne pas y voir une ligne pour la culture. C'est la guerre, lui a-t-on avancé. Mais il a répondu, s'il n'y a pas de culture, alors pourquoi nous battons-nous ?
Ce soir-là, l'institution ouvre ses portes gratuitement au public pour un concert de gala. Natalia est venue avec ses 3 enfants endimanchés.
On ressent une joie extraordinaire. On aime beaucoup la musique classique. C'est bien pour le développement des enfants. Merci de nous offrir cette possibilité d'assister au concert pendant la guerre.
Une parenthèse, mais sitôt les dizaines de marches gravies vers la sortie, c'est le retour à la réalité. Anastasia Bekio, Boris Vichit, Kharkiv, RFI.
L'Ukraine a 2 jours des 3 ans du début du conflit. Volodymyr Zelensky qui appelle les Européens à faire plus pour garantir la paix. Alors que Donald Trump demande lui au président ukrainien et à Vladimir Poutine de se parler pour mettre fin à la guerre.
RFI 7h08 à Paris, 8h08 à Goma et Bukavu.
Les combats qui se poursuivent dans les deux Kivus. Et pour la première fois, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné directement le Rwanda pour son soutien au M23. Résolution adoptée à l'unanimité. La guerre dans l'est de la RDC qui a provoqué le déplacement de dizaines de milliers de Congolais, notamment vers les pays voisins. Le Burundi a par exemple accueilli quelques 42 000 réfugiés ces 15 derniers jours. Un afflux inédit qui alerte le Haut Commissariat aux réfugiés, Sidi Yansané.
Un afflux inédit s'alarme le HCR qui n'avait pas enregistré autant de réfugiés congolais au Burundi depuis 25 ans. Après la prise de Goma, les Nations Unies prévoyaient la fuite vers le pays voisin d'environ 60 000 personnes dans les 3 mois. Il aura fallu moins de 2 semaines pour atteindre la moitié de cette estimation et la dépasser. Les demandeurs d'asile sont surtout des femmes et des enfants qui arrivent en très mauvais état après des jours de marche d'après l'agence de l'ONU. Des enfants, parfois seuls ou orphelins, traumatisés, affamés et épuisés. Pour mesurer l'horreur du conflit, le HCR donne l'exemple macabre d'une mère qui transportait ses enfants pendant des jours sans se rendre compte qu'ils étaient déjà morts. Le gouvernement burundais prévoit d'installer les déplacés vers le site de Mousseni, pouvant accueillir 10 000 réfugiés et d'allouer des terres au HCR pour des places supplémentaires. Actuellement, de nombreuses familles sont sans abri. Plusieurs cas de rougeole sont déjà détectés. Une situation que le HCR craint de voir empirer à mesure que le M23, appuyé par le Rwanda, s'approche de la ville d'Uvira, située juste en face de la capitale burundaise Bujumbura, de l'autre côté du lac Tanganyika.
Sidi Yansané du service Afrique de RFI, l'agence onusienne qui estime par ailleurs que plus de 13 000 Congolais ont fui vers l'Ouganda.
Aux États-Unis, nouveau dérapage dans l'entourage de Donald Trump.
Après Elon Musk, accusé d'avoir fait un salut nazi lors de l'investiture de président républicain, ce tour de Steve Bannon, ancien conseiller Trump, de saluer la foule, bras levés, les doigts joints. Geste qui laisse peu de place au doute, effectué devant la CPAC, la grande conférence annuelle des républicains trumpistes. Une référence à l'idéologie nazie, selon Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Il a annulé son discours dans la banlieue de Washington. Steve Bannon se défend de tout salut nazi et charge Jordan Bardella, c'est peu de le dire, David Thompson.
Steve Bannon apprend la nouvelle juste avant de monter sur le plateau de son podcast délocalisé au sein de la CPAC. Jordan Bardella vient d'annuler son discours devant la grande conférence annuelle des conservateurs américains en raison de son salut exécuté sur scène la veille. Un salut qualifié de nazi par le président du RN, accusation immédiatement balayée par l'ancien stratège de Donald Trump.
Oh, stop. That's ridiculous.
Arrêtez, c'est ridicule. J'avais fait la même chose il y a quelques années quand j'avais parlé devant le Front National. Je saluais juste la foule.
Et Steve Bannon, pourtant grand partisan d'une internationale populiste avec le Rassemblement National, s'en prend vigoureusement à Jordan Bardella dans un langage plutôt fleuri.
S'il n'a pas les couilles de venir ici, alors c'est une fillette. Et une fillette ne peut pas gouverner la France. Ça, c'est un truc que ferait Macron.
Le lendemain du geste de Bannon, un autre intervenant a lui aussi tendu son bras de la même façon sur la scène de la CPAC, comme l'avait fait Elon Musk le 20 janvier lors de l'investiture de Donald Trump. David Thompson, Washington RFI.
Et puis Martin, on termine en Nouvelle-Calédonie où Manuel Valls a été accueilli sous les huées.
Le ministre des Outre-mer en visite dans l'archipel pour une semaine. Pour ouvrir le dialogue entre loyalistes et indépendantistes après des mois de violence qui ont fait 14 morts. Mais c'est mal parti, Charlotte Manvi.
C'est le nouveau slogan des partisans de la Calédonie française. No pasaran, ils ne passeront pas. Une référence aux origines catalanes du ministre des Outre-mer, accusé par les non-indépendantistes de vouloir lâcher l'archipel. Alors, sitôt la cérémonie terminée, Manuel Valls tente de nouer le dialogue.
Mais pourquoi vous ne resteriez pas français? Il faut pas croire ce qu'on vous dit.
Ce qui voit Manuel Valls tant d'hostilité, ce sont ses propos sur une souveraineté partagée entre la France et l'archipel, un terme qui est pourtant dans l'accord de Nouméa signé en 98, mais dont ses loyalistes ne veulent plus.
On a eu trois référendums où on a dit non à l'indépendance, alors on aimerait bien qu'on nous prenne en compte.
Le problème, c'est que le dernier référendum a été boycotté par les indépendantistes. Seuls 47% des Calédoniens y ont participé. Et l'insurrection de mai dernier sur fond de réforme électorale imposée par l'État l'a montré. Faire sans les indépendantistes, c'est risquer que l'archipel ne sombre à nouveau dans la violence. Il faudra donc trouver un équilibre. C'est tout l'enjeu de cette visite qui doit permettre d'ouvrir des négociations sur le futur statut du territoire. Charlotte Manvi, Nouméa, RFI.
Et c'est sur le caillou que se referme ce journal. Moi, je vous laisse avec Julien Coquel-Rouen pour la suite de RFI Matin.
Merci, Martin Guez. Dans quelques minutes, notre invité, Thierry Pouche, chef économiste des chambres d'agriculture en France, à l'occasion de l'ouverture du salon de l'agriculture. Mais tout de suite, les sports. Avec vous, Victor Messistrano, à la une du football. La 23e journée du championnat de France a débuté hier soir par une grande première.
Oui, deux entraîneurs africains face à face en Ligue 1. Le Sénégalais Habib Bey et Rennes face au Malien Samba Diawara sur le banc de Reims. À l'arrivée, avantage à l'ancien défenseur des Lions de la Teranga. Victoire rennaise 1-0, but de l'attaquant Arnaud Kalimuendo sur pénalty en début de match. Les Rémois ont terminé cette rencontre à 9 après deux cartons rouges. De son côté, Habib Bey poursuit ses bons débuts. Troisième victoire en 4 matchs depuis son arrivée. Et pour la première fois, il a pu titulariser au milieu Seko Fofana, l'Ivoirien champion d'Afrique, qui retrouve sa condition physique et qui aurait même aimé terminer le match.
J'avais la frustration au moment de la sortie parce que je sentais que je pouvais continuer et puis surtout le fait qu'ils étaient à 10, ça allait me permettre de pouvoir avoir du rythme. Mais voilà, ça fait partie du jeu pour respecter aussi les choix du coach. Je sais que je risque d'être suspendu si je prends un jaune, donc... Voilà, ce soir, le plus important, c'était la victoire. Je suis content, on a pris du plaisir, on a gagné et puis on va revenir très fort pour Montpellier.
Montpellier qui est dernier du classement, tandis que Rennes est désormais 11e, Julien.
Aujourd'hui, suite des rencontres avec un duel de haut de tableau.
Entre Lille 4e et Monaco 5e des Monégasques qui, contrairement à leur adversaire du jour, ne disputeront pas les 8e de finale de la Ligue des Champions. Il faut rapidement digérer l'élimination de mardi à Lisbonne face au Benfica. Le défenseur allemand Thilo Kehrer veut se concentrer sur la priorité, le championnat.
C'est important de ne pas rester trop de temps là-dessus, sur le match de Benfica, ce qui s'est passé les dernières semaines ou quoi que ce soit. Il faut rester concentré sur la tâche qui est devant nous. Un grand défi en Ligue 1, déjà jouer à l'extérieur à Lille avec l'ambiance, avec la qualité de l'équipe qu'ils ont. L'objectif numéro un qu'on a mis au début de la saison, de finir sur le podium en Ligue 1. Bien sûr, les matchs en Coupe de France, en Ligue des Champions, c'est des extras. Notre base, c'est la Ligue 1, c'est ce qu'on a dit dès le début, et on a toute notre énergie et tout notre focus là-dessus.
Thilo Kehrer avant Lille, Monaco, coup d'envoi 16h, temps universel. À 19h, déplacement à Auxerre et objectif 4e victoire consécutive pour Marseille, dauphin du PSG. Paris qui, on le rappelle, connaît son adversaire en Ligue des Champions, ce sera Liverpool. Tandis que c'est un derby qui attend le tenant du titre, le Real Madrid affrontera l'Atlético. Tableau complet de ces huitièmes à retrouver sur RFI.fr. En attendant, les Colchoneros jouent à Valence à 17h30, temps universel, et peuvent mettre la pression sur le Barça, leader de Liga, qui joue ce soir à Las Palmas.
Toujours en football, il y avait de la Ligue des Nations féminine hier soir.
Et la France a entamé ses éliminatoires par une victoire face à la Norvège 1-0 à Toulouse, dans le sud-ouest du pays. Le but est venu de Marie-Antoinette Katoto sur un coup de pied arrêté, l'une des armes des Bleus, selon l'attaque du PSG, on l'écoute.
C'est un beau corner, bien tiré vers Selma. On avait un code, je l'ai bien suivi. Avec la chance, c'est rentré. Je l'ai prise un peu à l'arrache parce qu'elle est déviée. La trajectoire, elle a un peu changé. Heureusement pour nous, c'est rentré. Et je pense que sur coup de pied arrêté, on est très redoutable. Des fois, c'est comme ça. Des fois, il faut marquer sur coup de pied arrêté, c'est important. Et effectivement, ce sera une arme pour nous, même si on en a plusieurs.
Et j'ajoute que l'attaquante Eugénie Le Sommer, qui a égalé le record de 198 sélections en bleu, record désormais co-détenu avec Sandrine Soubéran.
Victor Missistrano pour les sports, merci beaucoup, à tout à l'heure. Ils et elles viennent d'Afrique, d'Asie ou du Moyen-Orient. Toutes et tous ont fui leur pays après avoir été menacés, pourchassés, voire emprisonnés, et ont trouvé refuge à Paris, dans un lieu particulier dans Menace sur l'information. Aujourd'hui, reportage à la découverte de la Maison des journalistes à Paris, créée en 2002. Elle accueille depuis les journalistes en exil dans la capitale française. Pouvant héberger 13 personnes en même temps, la maison est un lieu de vie, d'accompagnement social, mais aussi un espace pour continuer d'écrire et d'informer sans risquer sa vie. Lou Ekal nous emmène sur place.
À la Maison des journalistes, chaque chambre porte le nom d'un média.
Là, il y a la chambre Ouest France.
La chambre Ouest France, qui est un partenaire historique de la Maison des journalistes aussi. L'AFP, la chambre AFP, la chambre Radio France.
C'est Darline Cotière, la directrice de la Maison des journalistes, qui nous fait visiter.
C'est une résidence, c'est un lieu de vie, un lieu d'échange.
Il y a une grande salle à manger, une cuisine où chacun a son propre placard. Et il y a aussi une bibliothèque où les journalistes reçoivent des cours de français.
Tu es égyptien ? Toi, français.
Voilà. Pour résumer, une journée type, donc ce sont les démarches administratives, des cours de français pour les non-francophones, les activités d'éducation aux médias et à l'information. Ça peut être des sorties culturelles que nous organisons, des visites de musées, des visites de rédaction. Voilà, donc c'est ainsi que nous les accompagnons.
Un journaliste reste environ 8 mois ici et dès son départ, un nouvel informateur en exil s'installe. Le dernier arrivé, c'est Jiffy Elugba Kabamba. Il a posé ses valises dans la chambre Arte. Il vient de Kinshasa et sa spécialité, c'est l'environnement.
C'est un domaine aujourd'hui qui n'est pas facile du tout. En RDC, on vous arrête, on vous menace des morts, on vous fait des convocations, on vous kidnappe et tout ça juste parce que vous dérangez en fait les entreprises, des lobbying et tout ça. Moi, j'ai été menacé à plusieurs reprises. J'ai eu des messages, j'ai aussi reçu des menaces physiques aussi qui voulaient me faire taire complètement.
Enquêter sur des crimes environnementaux, comme le pillage de bois rares dans la province de Maniema en RDC, c'est devenu de plus en plus dangereux pour Jiffy Elugba Kabamba. Son départ devenait imminent.
Quand on ne se sent pas à même de parler de ce que l'on voit, c'est une barrière en fait. Ça ne vaut pas la peine de faire du journalisme quand on n'a pas la liberté de l'expression.
Cette maison, c'est le refuge que ce jeune journaliste a choisi pour continuer à travailler. Car même à des kilomètres de Kinshasa, pas question d'arrêter d'écrire.
En France, c'est vrai, j'ai aussi des ambitions. Continuer à apprendre, continuer à travailler avec les autres, collaborer avec des journalistes. Mais être ici en France n'exclut pas le fait que je dois continuer à écrire pour la RDC. Je continue le travail. Je dois continuer à aborder des sujets pour mon pays, rien ne s'arrête, donc je continue avec ça.
Parmi les rêves de Djifi Elouba Kabamba, créer un média d'investigation pour parler des crimes en cours dans les forêts d'Afrique.
Loué Kal à la maison des journalistes à Paris pour menace sur l'information. Est-ce le début d'un apaisement ou juste une simple accalmie? Il y a un an, Emmanuel Macron inaugurait le Salon de l'agriculture à Paris dans une ambiance hostile et tendue. Alors que le mouvement de colère des agriculteurs avait bloqué quelques semaines auparavant les routes et les péages de France, un an plus tard, le Salon de l'agriculture ouvre aujourd'hui dans une atmosphère moins électrique et l'exécutif met en avant les mesures prises depuis pour répondre à la grogne. Mais avec la disparition de 100 000 fermes en 10 ans, alors que la moitié des chefs d'exploitation partiront à la retraite dans la décennie qui vient, alors aussi que la France dépend de plus en plus des importations pour se nourrir et que les agriculteurs sont de plus en plus vulnérables aux effets du réchauffement climatique. Les attentes du secteur sont toujours grandes et les sujets à régler restent nombreux. État des lieux avec notre grand invité ce matin. Bonjour Thierry Pouche.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur, chef économiste aux Chambres d'agriculture de France et membre de l'Académie d'agriculture de France. Un an donc après ce salon extrêmement tendu et ce mouvement de colère des agriculteurs, dans quel état se trouve le monde agricole français aujourd'hui? Peut-on dire que des choses ont changé?
Alors des choses ont changé, évidemment. Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises et puis plus récemment l'adoption par le Parlement de la très attendue loi d'orientation.
On l'attendait depuis 3 ans.
On l'attendait depuis 3 ans. Elle a été en plus retardée par la dissolution. Donc les agriculteurs ont obtenu un texte dont ils sont globalement assez satisfaits, même si évidemment rien n'est parfait lorsqu'on établit une loi. Mais bon, il y a eu quelques avancées. Il n'en reste pas moins que, un peu comme vous l'avez dit, il y a encore quelques attentes, quelques inquiétudes. Alors d'abord sur le renouvellement des actifs, évidemment, c'est un vrai souci. Ensuite, l'année dernière, il y a eu une pluviométrie quand même excessive qui a fortement endommagé les récoltes, mais aussi la production de raisins pour le vin. Donc il y a des campagnes d'arrachage qui sont assez massives aujourd'hui. Et puis il y a eu les deux épisodes sanitaires, la maladie hémorragique pour les bovins et la fièvre catarrhale ovine, qui a un peu entraîné un abattage imprévu des animaux. Donc il y a toujours de l'attente, non seulement sur le court terme, mais aussi sur le long terme, avec le problème du défi climatique, évidemment, mais aussi la concurrence intra-européenne et la concurrence internationale.
Et on y reviendra. Il y a aussi la reconfiguration issue des élections professionnelles d'il y a quelques semaines. La position de leader de la FNSEA a été très sérieusement écornée, avec une forte progression de la coordination rurale, syndicat classé plutôt à droite, souvent décrit comme proche du Rassemblement national, qui lui a raflé 11 chambres d'agriculture départementales. Quels enseignements peut-on tirer de ces résultats et de leur géographie? Que nous raconte la carte de ces élections sur ce qu'est le monde agricole français aujourd'hui?
Alors, quand on regarde la géographie, si vous tracez en gros une ligne Bordeaux-Strasbourg, vous avez au-dessus, de façon assez globale, des productions agricoles qui sont extrêmement importantes et qui représentent un pourcentage très lourd dans la production totale de la France. En dessous, c'est beaucoup plus compliqué. C'est souvent des productions moins importantes, des structures qui sont un petit peu moins compétitives. Donc, il y a une vraie interrogation maintenant sur l'avenir de ces exploitations, ce qui expliquerait, d'après les premières enquêtes sociologiques de ce vote, ce qui expliquerait le basculement dans certains départements. Faut faire attention parce que ils ont raflé en siège, en voix plutôt le certaines chambres. Ça veut pas dire que ça va se traduire par la conquête de la présidence de la chambre. C'est un petit peu compliqué, mais il y a plusieurs collèges dans ces élections. Ouais. Et donc là, la coordination a pu prendre avec le collège 1 des exploitants agricoles, mais pas le reste des collèges.
On a parlé de la loi d'orientation agricole qui prévoit notamment de faciliter les installations, la construction de bâtiments d'élevage et le stockage de l'eau, la dépénalisation de certaines infractions environnementale. Le texte érige aussi l'agriculture au rang d'intérêt général majeur. La gauche et les défenseurs de l'environnement dénoncent des renoncements en matière d'écologie. Cette loi marque-t-elle un recul dans l'adaptation de l'agriculture française au réchauffement climatique?
Je suis pas convaincu. Quand on lit bien le texte, dans la plupart des articles, il y a cette préoccupation de l'environnement. Si l'agriculture doit s'adapter au changement climatique en changeant certaines de ses pratiques, elle doit le faire justement dans dans cette perspective environnementale et dans cette perspective d'inscrire ces changements dans une économie décarbonée. Donc je suis un petit peu surpris par toute cette confusion. Je comprends qu'on puisse être évidemment sur des positions très tranchées chacun de part et d'autre, mais je suis un petit peu surpris. Par ailleurs, la loi, c'est quand même mettre l'agriculture au rang de priorité nationale d'une certaine façon, en essayant de mettre en avant la souveraineté alimentaire du pays. Alors, c'est pas négligeable, surtout dans le contexte actuel où à l'international on a quand même beaucoup de tensions. Il y a des pays comme la Fédération de Russie qui maintenant ne dissimule plus ses ambitions en matière de pouvoir alimentaire. Ils sont très agressifs. Ils essayent de conquérir des marchés sur lesquels nous étions historiquement. Donc je crois que c'est une loi qui peut finalement s'inscrire dans une forme de tournant. On a pris conscience de nos dépendances. On sait qu'on a un commerce extérieur qui, bien qu'il reste excédentaire, s'effrite. Donc il y avait peut-être quelque chose à faire.
Mais pour en revenir à la question écologique, on a beaucoup parlé ces derniers mois des critiques virulentes, voire des protestations violentes de certains agriculteurs contre des agences comme l'Office français de la biodiversité. Pourtant, une majorité d'agriculteurs s'inquiètent du réchauffement climatique, se disent prêts à changer leurs pratiques. Le sociologue de l'agriculture, François Purseigle, relevait il y a un paradoxe il y a quelques jours. C'est que ces critiques émanent d'une minorité, pourtant c'est de celle-là dont on parle le plus. C'est un constat que vous partagez ?
Oui, je partage le constat avec François Purseigle. Je crois que ça s'explique par le fait que l'écologie est devenue maintenant un message et une priorité dans l'esprit de la population, ce qui est assez normal. Mais de là à opposer des perspectives écologiques à l'impératif de continuer à produire notre propre alimentation pour essayer d'être le moins dépendant possible de l'extérieur, parce que le jour où on n'aura plus de production agricole, on sera totalement dépendant de l'extérieur. Et je pousse à l'extrême le raisonnement, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir à l'esprit.
Mais dans le même temps, 43% des terres cultivées aujourd'hui sont dédiées à l'exportation. Il n'y a pas un paradoxe là quand on parle de souveraineté alimentaire et qu'on exporte autant ?
Alors, non, la souveraineté alimentaire, c'est pas pousser à l'exportation ou renoncer à l'exportation. La souveraineté alimentaire, si on s'inspire de la science politique, c'est décider par soi-même et pour soi-même de ce qu'on doit produire. Ensuite, si on en produit trop, eh bien, on peut chercher des marchés pour exporter. Et l'exportation n'est pas forcément un mal en soi, pour deux raisons. D'abord, parce que quand on regarde le déficit commercial global de l'économie française, il y a quand même quelques secteurs où c'est encore excédentaire, c'est le cas de l'agroalimentaire. Et deuxièmement, faut pas oublier que la France, parmi les principaux exportateurs mondiaux, contribue aux équilibres vitaux de la planète, sachant qu'il y a des zones géographiques où la perspective d'une autosuffisance est quand même très très éloignée. Donc si on ne fait pas d'exportation en direction de ces pays-là, il y aura un certain nombre de problèmes.
Un dernier mot sur une autre critique à l'égard de cette loi de programmation agricole. Où sont passés les prix planchers, demande le porte-parole de la Confédération paysanne. Alors c'est un exemple parmi d'autres, mais de fait, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des problématiques peut-être moins médiatisées, moins vendeuses politiquement, mais tout aussi importante qu'on est en train d'oublier?
Eh bien, ça en fait partie. Effectivement, la loi d'orientation n'en parle pas, en tout cas, à ma connaissance. J'ai regardé le texte. Mais c'est vrai que la question du revenu des agriculteurs, la préservation de leur outil de production à travers le maintien de ce revenu reste une question centrale. Et tout le monde le dit. Donc, il faut maintenant, au-delà de cette loi d'orientation, mettre sur le chantier la question de la rémunération des agriculteurs, la formation des prix. Est-ce qu'on doit laisser ces prix fixés par le marché seul, ou est-ce qu'il doit y avoir un retour de la régulation des marchés?
Avec toute la question du rôle que la grande distribution doit jouer, évidemment. Merci beaucoup Thierry Pouche, chercheur, chef économiste aux Chambres d'agriculture de France et membre de l'Académie d'agriculture de France, d'avoir accepté l'invitation des RFI ce matin. Très bonne journée.
Merci à vous aussi.
Et à bientôt 6h30 en temps universel.
Ce lundi, journée spéciale, 3 ans après le début de la guerre en Ukraine. Andréane Mélard.
Et pour l'occasion, RFI sera à Kiev en direct avec nos invités, nos correspondants. On va parler de la guerre meurtrière, toujours en cours, de l'état de la population et surtout de la paix. Est-elle possible? Sur quelle base et à quel prix? Rendez-vous ce lundi 24 février dès 6h temps universel sur RFI.
Lamas Rock, Jarin FX et RFI Talent présentent Zar Electri. Découvrez Sarah Miel, le deuxième single du trio franco-marocain de Marseille. Disponible sur toutes les plateformes.